Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Yvan Rioufol, merci d'être avec nous ce matin. Alors aujourd'hui, deux sujets que vous vouliez évoquer, et j'avoue que quand je les ai vus, je me suis demandé quel était le lien entre ces deux sujets. Mais tout d'abord, la défaite de Viktor Orban, selon vous, sonne-t-elle le glas du populisme ?
Oui, et vous verrez le lien qui va apparaître, en tout cas, je l'espère. En tout cas, est-ce que la défaite de Viktor Orban sonne le glas du populisme ? C'est en effet ce que j'entends, mais c'est ce que je ne crois pas, et je suis même prêt à vous démontrer l'inverse. En tout cas, il est vrai que sa sévère défaite dimanche ébranle le socle des fortes têtes qui, de Trump à Netanyahou, en passant même par Poutine, sont indifférentes au rappel à l'ordre des progressistes, des mondialistes, des européistes, des wokistes. Et en effet, il y a là un coup dur a été porté. J'ai remarqué que Mme von der Leyen s'est précipitée pour saluer la défaite de celui qui comparait jusqu'alors l'Union européenne à l'Union soviétique, dictature contre laquelle Orban s'était lui-même opposé lorsqu'il était jeune, avant de se rapprocher de la Russie de Poutine et de son autoritarisme, au point d'ailleurs d'avoir désarçonné une partie de l'opinion, puisque j'ai entendu que dans la foule dimanche, saluant effectivement la victoire de Peter Mayer, beaucoup de manifestants criaient notamment la Russie dehors. Et j'ai remarqué également que la présence du vice-président, excusez du peu, du vice-président américain J.D. Vance, quelques jours avant le scrutin, en soutien donc à Orban, n'a pas porté les fruits espérés. Donc, il y a là aussi quand même un désaveu de Trump. Tout ça, ce sont des faits qu'il faut analyser. Mais je remarque également que la victoire de Peter Maguire reste celle d'une affiliation au national-conservatisme. Je ne sais pas s'il gardera exactement cette même structure idéologique, mais en tout cas, c'est une victoire de la droite. C'est la droite qui a gagné hier, et c'est la droite qui a gagné sur les fondamentaux qui avaient été ceux développés par Viktor Orban depuis maintenant 16 ans, à savoir la défense de la nation, la défense de la famille, la défense de la religion, et surtout une résistance à l'immigration de masse sans faux-semblant. Et je pense que Orban a perdu, il a d'abord perdu par lassitude du pouvoir. C'était son quatrième mandat, 16 ans comme Premier ministre, naturellement cela pèse. Il a perdu aussi parce qu'il y avait une inflation galopante, il y avait peut-être une gestion économique qui n'était pas épatante, il y avait des problèmes de corruption, il y avait sans doute également un autoritarisme de sa part qui avait été suscité par son illibéralisme. Reste malgré tout, et c'est quand même bien la grande leçon, que cette dictature qui semblait être celle maintenant de la Hongrie à travers la personnalité d'Orban était un leurre, bien entendu, car en fait, cette élection a été une élection éminemment démocratique, et Orban a tout à fait reconnu sa défaite avant même que les résultats officiels ne soient établis. Donc, malgré tout, c'est un désaveu de toutes les caricatures qui avaient été portées contre Orban. Et c'est en cela que je dirais que son échec ne sonne pas le glas du populisme, si l'on entend que par populisme, le réveil des peuples et des nations souveraines. Je crois même que le succès de Peter Mayer va banaliser, au contraire, ce populisme-là, dans la mesure où il va, a priori, poursuivre cette voie, peut-être pas dans ses rapports avec l'Union européenne, là on verra bien effectivement lesquels ils seront, mais enfin en tout cas, sur les fondamentaux d'une défense souveraine et d'une protection d'une immigration colonisatrice, je pense que nous allons voir exactement la même politique avec, et je pense que l'on peut retenir que Orban aura apporter un apport important, je bafouille un peu, au sentiment patriotique et à la résistance au wokisme, cette prison qui est destinée à déstructurer les sociétés occidentales. Dimanche soir, il n'y avait que des drapeaux nationaux, il n'y avait pas de drapeaux européens dans la foule, et il n'y avait naturellement pas non plus de drapeaux palestiniens ou de tous ces tous ces attributs que l'on peut voir dans les grandes manifestations françaises notamment.
Mais et même donc, d'une certaine façon, même Yvan Rioufol, même sur la méthode, pour le coup, moi je reviens de 5 jours donc, de reportage à Budapest, donc j'ai pu un petit peu m'intéresser de très près à ce sujet, même sur la méthode, Peter Maguer est lui-même un populiste. C'est-à-dire dans sa manière en fait de s'exprimer, dans sa manière finalement de s'opposer en fait à Orban. Orban était devenu le système, un système certes populiste, mais le système. Et Peter Maguer, lui, s'est présenté comme le candidat anti-système qui justement voulait rassembler le peuple hongrois contre le système Orban.
Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Et donc, pour ma part, moi, je crois que plus que jamais, le populisme que Macron a toujours voulu combattre en se présentant comme étant progressiste, que le populisme reste la meilleure option pour toutes les droites et pour la droite française s'il veut enfin rompre avec les idéologues de la société ouverte. Et pour moi, le populisme n'est pas du tout le rejet des élites, mais c'est au contraire l'invitation faite à de nouvelles élites de se mettre à l'écoute de ce que j'ai appelé le peuple oublié. Et je parle de Jean-François Copé pour en faire la liaison, parce que Jean-François Copé vient de commettre un livre que je viens de lire, dans lequel il caricature précisément toute l'arrogance de ces élites qui ne comprennent rien. Et donc, c'est un livre qu'il a fait pour fustiger le populisme, qu'il compare effectivement à une trahison du peuple. Or, je pense que Copé, effectivement, est dans la caricature de ce que nous avons à nous séparer.
Et justement, Jean-François Copé, voilà, qui vient de commettre un livre, comme vous le dites, qu'on conseille à nos auditeurs de ne pas acheter. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez exactement à Jean-François Copé ?
Vous savez, il faut toujours lire ceux qui s'opposent à vous, parce que cela met en relief, effectivement, parfois la faiblesse de leurs arguments, ce qui est le cas en l'occurrence. Parce que ce que je reproche à Copé, ce n'est pas simplement à Copé que je le reproche, je le reproche à tous ceux qui nous ont gouvernés depuis maintenant, dans le fond, près d'un demi-siècle, en tout cas 30 ans ou 40 ans. Et donc, dans ce dernier livre, « Quand les populistes trahissent le peuple », c'est son titre donc, dans son dernier livre, il illustre la morgue des élites qui sont incapables de reconnaître leurs erreurs. C'était la semaine dernière sur une radio périphérique, RTL, je crois me souvenir, on l'interroge sur sa position sur l'interdiction du voile dans l'espace public, qui était une position qu'il avait défendue il y a encore 10 ans. Ah. Et Copé a répondu dans une désinvolture insupportable, dans le fond. Il a répondu « c'est trop tard, il fallait le faire il y a 25 ans ». Ceux qui le demandaient il y a 25 ans, c'est précisément les populistes qu'ils stigmatisent aujourd'hui. Et donc, il y a bien sûr une légèreté invraisemblable. Et lui-même à Meaux, donc il est maire de Meaux, brillamment réélu d'ailleurs, mais on comprend pourquoi, parce qu'à travers son appui au communautarisme, lui-même à Meaux a autorisé très récemment le port du voile à une élue de la France insoumise, en se targuant du fait qu'il fallait désormais parler aux musulmans. Alors, naturellement, il est certes préférable que ce soit un Copé ou un républicain mou, même mou, qui soit maire de Meaux plutôt qu'un LFiste antisémite et racialiste. Mais les faiblesses dans les deux cas sont les mêmes. C'est-à-dire que Copé, comme Mélenchon, veut s'adresser à la communauté musulmane et non pas à la communauté des citoyens. Il veut s'adresser aux musulmans et non pas aux Français, en règle générale. Et tous deux manie le même procédé de l'insulte pour empêcher tout débat. Copé traite les populistes de charlatans, tandis que Mélenchon traite ses opposants de fascistes.
Mélenchon est plutôt populiste lui-même à sa façon.
Il est populiste à sa façon, mais en tout cas avec un ressort qui est un ressort, de mon point de vue, fascistoïde et un ressort stalinien. En tout cas dans la manière qu'il a de refuser le débat comme Copé le fait, en traitant ses adversaires de fascistes. Donc moi je n'en peux plus. Moi, de ces genres de relégation, ce n'est pas une preuve, en tout cas, d'une grande ouverture d'esprit. Et ce que Copé ne veut pas voir, pour le coup, c'est que ce sont bien, en effet, les populistes qui voient clair. Ce sont eux qui ont alarmé depuis des décennies sur l'islamisation de la société. Et quand il lui-même prétend, dans une grande contradiction d'ailleurs, dénoncer l'entrisme islamiste, mais il prêche en même temps pour les accommodements raisonnables. Et cette posture a été applaudie très récemment, hier, je crois, par Édouard Philippe, alors qu'elle est inopérante, naturellement, pour mettre un terme à l'islamisation du pays et au grand remplacement, d'ailleurs un grand remplacement auquel il ne croit pas non plus. Donc il est intéressant de lire malgré tout Copé, je ne vais peut-être pas recommander de se précipiter, mais enfin, pour voir quelles sont les failles de raisonnement, qui sont les failles d'un raisonnement qui ont été celles des élites depuis maintenant au moins 30 ans. Et de mon point de vue, le seul homme intéressant que j'ai entendu cette semaine, et que j'ai lu, c'était dans le JDD dimanche, donc, c'est Boualem Sansal, qui est posé d'ailleurs sur la photo avec Philippe Devilliers, et qui, dans un entretien, appelle la France, appelle les Français à se libérer. Je le cite, pardon, je prends sa phrase exacte. « Ceux qui combattent la France de l'intérieur doivent être déclarés ennemis et boutés du pays. » C'est-à-dire que Boualem Sansal lui-même, ce Soljenitsyne qui dénonce l'islamisme, est en train de suggérer effectivement de penser à la remigration, de penser au rapatriement, enfin en tout cas de tous ceux qui détestent la France, qui ne sont pas français, qui détestent la France. Et ceci est une audace que s'interdit, bien sûr, une audace populiste, donc que s'interdit Copé notamment, mais à travers Copé, que s'interdit tout un système qui ne veut pas entendre parler effectivement d'une radicalisation des postures afin de se protéger et afin de se mettre dans la lignée, par exemple, de Orban ou de son successeur. Et donc, ces populistes-là qui représentent, me semble-t-il, l'avenir d'une droite libérale. Et en tout cas, je pense que la lâcheté d'Orban montre naturellement que ce ne sont pas, en tout cas, avec ces personnalités-là qu'il faut compter, mais qu'il est urgent que Retailleau, notamment, se coupe de cette branche des Républicains s'il veut être à la hauteur de l'histoire qui s'affiche, et l'histoire s'affichera à travers une ligne populiste qui vient notamment, ce qui sera notamment celle des Hongrois, puisque vous l'avez également constaté vous-même en allant sur place.
Merci beaucoup Yvan Rioufol d'avoir été avec nous ce matin et pour votre analyse effectivement sur le devenir du populisme. On vous dit à la semaine prochaine.
Ligne droite, le monde autrement, Mériadec Raffray.
Et pour ce nouvel entretien avec Mériadec Raffray, je laisse la main à Richard de Sèze.
Bonjour Alexandre, bonjour Richard.
Bonjour Mériadec Raffray, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef Monde de Valeurs Actuelles et on va évidemment parler d'actualité internationale. Il y a les nouveaux venus, il y a les nouveaux battus, il y a ceux qui arrivent, il y a ceux qui partent. Commençons par l'Iran.
Alors, je ne sais pas si c'est un nouveau venu, nouveau battu, l'Iran. C'est un pas encore battu, en tout cas. Et Donald Trump a sorti de son chapeau une énième facétie stratégico-politico-militaire, à savoir un blocus à la sortie du détroit d'Ormuz. C'est un élément qu'il avait annoncé dimanche matin, à l'issue, en fait, de sa ronde de négociation du samedi 11 avril. 21 heures de négociations non-stop entre les Américains et les Iraniens, une délégation d'un côté de trois personnes, de trois dirigeants américains, présidés par cette fois Jed Evans, le vice-président américain, l'homme qui était réputé ne pas être très favorable à une intervention américaine contre l'Iran, qui avait fait bon contre mauvaise fortune bon cœur, et de l'autre côté, une délégation présidée par Mohamed Bagher Ghalibaf, qui est le président du Parlement iranien, qui avait avec lui 70 personnes. C'était une manière de montrer, en fait, à la face du monde que l'Iran était invaincu, toujours institutionnel, que l'État était toujours cohérent et actif. Et en fait, on a, au fil des jours, des heures qui ont suivi cette ronde de négociation, on a compris en fait que les Américains, les Iraniens avaient vraiment posé sur la table cette fois tous les sujets qui fâchaient et ils avaient vraiment discuté au fond des sujets, ce qu'a reconnu à la fois Jed Evans et Mohamed Bagher Ghalibaf. Mais est là, c'est qu'il n'y a pas eu d'accord. L'accord a achoppé, selon les Américains, sur le dossier nucléaire. Trump a d'ailleurs eu un message comme dont il a le secret. Il a dit on était d'accord à 90%, mais malheureusement, nous, on ne veut pas 90%, on veut 100%. Et donc, le 10% restant étant l'engagement des Iraniens à abandonner en fait toute velléité de nucléaire militaire. En fait, ce que disait Donald Trump, c'est nous voulons une capitulation à un partenaire ou un adversaire ou un ennemi qui n'avait pas été vaincu militairement par l'Amérique. Donc c'est quand même assez paradoxal. Quand je dis pas vaincu militairement, même si il avait essuyé un certain nombre d'échecs et de destructions massives de son outil militaire. On en était là, et dimanche matin, comme si Donald Trump voulait relancer la machine à son avantage, reprendre le contrôle du narratif dans ce dossier, dans lequel, en fait, il faut bien comprendre, à mon avis, que Donald Trump, en fait, a besoin d'un narratif politique pour, d'abord, pour saturer, pour prendre l'initiative sur les autres narratifs, et là, je parle aux États-Unis. Deuxièmement, pour écrire l'histoire comme il veut qu'elle soit écrite, ou en tout cas le récit. Il veut maîtriser le récit. Voilà, c'est ça. Et un certain nombre d'ailleurs d'experts aux États-Unis, je pense notamment à un de mes spécialistes correspondants à Washington, parle de post-vérité, c'est-à-dire que quelle que soit la vérité, en fait, l'important est que chaque camp puisse instaurer et alimenter sa vérité. La vérité de Donald Trump, c'est j'ai gagné, nous avons gagné, l'Iran est à terre, et c'est une question de temps, et les choses vont arriver, ils vont capituler. Bon, évidemment, donc la négociation c'était achevé sur un non-lieu, hein, autrement dit une reconnaissance de non-accord. Et donc Donald Trump relance la machine en disant puisque vous n'avez pas voulu d'accord, nous allons mettre un blocus. Et en fait c'est là où les choses se compliquent de mon point de vue, c'est que la semaine que l'on vient de passer, là, du 8 avril globalement au 11 avril, une trêve suivi d'une négociation, une trêve qui doit durer 15 jours jusqu'au 21 avril, suivi d'une négociation. Et l'idée, c'était quoi? C'était pour Donald Trump de diminuer, en fait, de stopper, en fait, la montée en puissance, l'affolement des thermomètres, surtout économiques, aux États-Unis. Puisqu'il a beau répéter, c'est vrai que l'Amérique n'est plus dépendante du pétrole des autres nations, des autres producteurs, puisqu'il est autosuffisant. Il n'empêche que la prime géopolitique au cours du pétrole mondiaux a un impact direct aussi sur le prix du pétrole à la pompe pour les Américains.
Plus 40%.
Voilà, environ 40%, mais en fait ce chiffre est un peu tronqué, c'est-à-dire que 40%, mais on part de très bas en fait. Si vous voulez, aujourd'hui, le gallon d'essence, il est à peu près autour de 4 dollars. Un gallon, c'est supérieur à un litre d'essence. Et donc, en fait, le prix à la pompe, même s'il a augmenté, reste quand même relativement modeste pour les Américains, même si, vous allez me dire, et vous aurez raison, les Américains vivent souvent à crédit et donc comptent au dollar près. Donc, voilà, il faut bien expliquer ça. En revanche, il y a un indicateur qui est majeur, c'est, de mémoire, je parle, il y a eu une augmentation de 0,9% de l'inflation rien qu'au mois de mars des prix à la consommation aux États-Unis. C'est la plus forte augmentation sur un mois depuis les 4 dernières années. Et donc ça, évidemment, ça pèse sur le consommateur américain. Et Trump avait besoin de faire baisser ses tensions. Ce qu'il a fait en déclarant une trêve, en déclenchant la trêve, puis la négociation. Aussitôt, les baromètres ont baissé. Le prix du baril qui était avant le 8 avril était au supérieur à 115-118 dollars le baril, et redescendu aussitôt à 95-96 dollars. Et ce lundi, à la suite de l'annonce du blocus, et aussitôt remonté au-delà de 100 dollars. Et c'est là où je ne suis pas très bien Trump, c'est que, en fait, ce blocus, donc qu'est-ce que c'est? La marine américaine, CENTCOM, l'amiral Brad Cooper, qui commande les forces déployées dans la région, dans cette région, grande région du Moyen-Orient, a expliqué que la marine américaine allait contrôler et stopper tous les bâtiments sortant du golfe Persique, en ayant fait un stop dans un port iranien, d'une part. D'autre part, tous les bâtiments qui auraient payé un péage, donc une taxe, à l'Iran pour sortir du golfe Persique. En revanche, tous les autres seraient libres de naviguer. Autrement dit, l'idée, c'est de couper l'Iran de ses clients, des clients de ses hydrocarbures. Hydrocarbures, c'est-à-dire pétrole et gaz. Tout en libérant en fait tous les bâtiments qui viendraient charger leur pétrole et leur gaz chez les alliés des Américains, le Qatar, le Koweït, etc. Et deuxièmement, ce blocus filtrant s'accompagne d'une opération américaine de déminage du détroit. Voilà comment sont présentées les choses d'un point de vue opérationnel. Pour donner un ordre d'idée, il faut savoir qu'avant la guerre, il y avait environ 150 navires qui chaque jour croisaient naviguaient, entraient ou sortaient du golfe du détroit d'Ormuz. 150 navires, c'est monstrueux, hein, c'est énormissime. Et même quand on s'appelle la marine américaine et qu'on a plusieurs dizaines de bâtiments déployés au large du golfe du détroit d'Ormuz, c'est absolument très compliqué. Et que entre le 28 février et aujourd'hui, il y a à peu près 150 navires qui sont rentrés et sortis. Donc, je ne fais pas le calcul, mais enfin, ça fait quelques-uns par jour, ce qui est déjà beaucoup plus facile à contrôler. Ça, c'est le volume, si vous voulez. Maintenant, ce blocus... Alors déjà, sur les mines, après avoir pris des informations aux meilleures sources, personne aujourd'hui, c'est-à-dire ni les Américains, ni les Français, ni personne, ne sait exactement s'il y a des mines qui sont plongées dans le détroit d'Ormuz. Donc c'est le simple fait pour les Iraniens de dire nous aurions posé des mines, ça suffit à faire affoler les compagnies maritimes, les assurances qui assurent ces bateaux, et à geler, à bloquer en fait le détroit, parce que on ne peut pas prendre le risque d'une mine. Mais aujourd'hui, techniquement parlant, personne ne sait, en tout cas du côté des alliés et des occidentaux, personne n'est capable de dire si les Iraniens ont vraiment posé des mines ou pas. Je ferme le dossier. Deuxième dossier, le blocus. Donc, on va prendre un cas concret, si vous voulez. Si cette nuit ou demain matin, un navire, un tanker, un super tanker battant pavillon chinois sort du détroit d'Ormuz après avoir chargé une cargaison de pétrole iranien, va-t-il être contrôlé, d'une part, par la marine américaine, et d'autre part, si ce bâtiment décide de forcer le blocus, en tout cas de ne pas répondre aux injonctions de la marine américaine dans les eaux internationales, que va-t-il se passer? Les Américains vont-ils ouvrir le feu sur un super tanker bourré de pétrole jusqu'à la gueule, battant pavillon chinois à destination de Pékin ou de Hong Kong?
Pékin où Donald Trump est censé se rendre dans quelques jours.
Dans quelques semaines, à la fin du mois. Donc, voyez un peu l'idée. Et si vous voulez, même si un bâtiment battant pavillon iranien voulait forcer le blocus, peut-on imaginer que la marine américaine tire à balles réelles, à obus réels sur un tanker avec le risque de provoquer une marée noire? Donc les choses
Oui, enfin, je vois bien, étant donné la manière de cow-boy dont les Américains nous ont habitués depuis quelques mois, entre le fait d'avoiner les bateaux vénézuéliens en expliquant que ce sont des trafiquants sans qu'on le sache, et le fait de déclencher, déclencher des marées noires, en tout cas ne jamais travailler à faire en sorte que cette marée noire soit correctement indemnisée, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'Américains.
Moi, je ne vois pas les commandants américains tirer à balles réelles ou à obus réels sur un tanker au risque de provoquer une marée noire. J'attends de voir. Je ne pense pas que les commandants de la marine américaine soient des têtes aussi brûlées que ça. Donc j'avoue que pour moi, l'hypothèse est vraiment peu probable. En tout cas, cela montre la difficulté concrète, pratique, si vous voulez, non pas de réaliser un blocus, c'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le dispositif militaire américain est tel que tous les bateaux qui entrent, qui sortent, qu'ils aient activé ou pas leur système électronique d'identification, sont identifiés, catalogués et suivis, je dirais, heure par heure, minute par minute, par les radars américains. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Par ailleurs, la flotte américaine est suffisamment puissante au large du détroit pour intervenir sur des bâtiments effectivement récalcitrants réaliser des contrôles. Ça, c'est clair. Maintenant, dans la réalité des choses, contrôler, plus si vous voulez, plus le flux va reprendre, plus le nombre de bâtiments entrant et sortant va être important, et plus la difficulté pour la marine américaine va être importante de réaliser un contrôle effectif de ce qui se passe, de ce qui rentre et de ce qui sort, avec tous les cas non conformes ou compliqués que je viens d'illustrer par l'exemple du bâtiment chinois, mais il y en a plein, un bâtiment russe, etc. Et par ailleurs, alors ensuite on peut se demander quel peut être l'impact du blocus. Ce qui est clair, c'est que bloquer les exportations de brut et de gaz iranien, c'est taper l'Iran au cœur du portefeuille, c'est priver l'Iran de son dernier dernier sang économique. Ça, c'est certain. Et là, on peut imaginer, hypothèse que je mets sur la table, c'est une hypothèse qui resterait à vérifier, hypothèse, les Américains estimeraient qu'il suffirait simplement désormais d'un coup d'épaule pour que le régime tombe, et ils pensent que dans cette course de vitesse, en bloquant le pétrole iranien, il pourrait accélérer en fait la chute du régime. Et là, pour le coup, le sablier du temps, pense-t-il, pourrait leur être favorable. Hypothèse. Deuxième hypothèse, et donc une hypothèse intermédiaire qui consisterait à penser que les Américains mettent un dernier coup de pression pour inciter en fait les Iraniens à lâcher les derniers morceaux qu'il leur manque dans la négociation pour conclure un accord avec lequel Donald Trump puisse dire « Nous sommes arrivés à ce que nous voulions, les Iraniens lâchent sur l'uranium militaire ». Alors, force est de constater que hier, les Iraniens ont lancé sur la table une nouvelle proposition. Ils ont dit « Nous sommes d'accord pour nous engager à ne pas enrichir l'uranium pendant 5 ans ». C'est une nouvelle proposition. Les Américains ont dit non, pas question. Nous, on veut 20 ans. Donc, vous voyez que les choses sont en train de bouger. Parce que pendant ce temps-là, pendant que le blocus est mis en œuvre, les négociations continuent. Je vais y revenir. Et enfin, troisième hypothèse, on peut imaginer que les Américains et Donald Trump, toujours pour alimenter son narratif politique, ait besoin de faire un coup d'éclat. On peut imaginer, par exemple, que la marine américaine va sélectionner un bâtiment rentrant bien précisément dans les catégories qui les intéressent, faire un coup d'éclat, convoquer les caméras, faire un coup d'éclat, monter à bord avec des hélicoptères, mettre ça sur CNN et sur toutes les caméras du monde en disant « Voyez, le premier qui ne nous obéit pas, voilà le sort qu'on lui réserve, mettre le capitaine en prison, saisir la cargaison, etc. » On peut imaginer ça, ça va nourrir, alimenter les narratifs et puis ensuite les choses vont se déliter parce que, comme je l'ai dit, concrétiser ce blocus, surtout dans le temps long, est ultra, ultra compliqué. Et puis, il y a une autre question qui se pose, c'est si toutefois les Iraniens ne lâchaient rien malgré ce nouveau coup de pression, c'est à nouveau le piège qui se retournerait contre Donald Trump. Je veux dire que les prix du pétrole dans les jours qui viennent devraient logiquement exploser à nouveau, puisque non seulement les Iraniens, enfin les Iraniens évidemment contrôlent toujours les entrées et sorties du détroit, donc le pétrole iranien ne pourrait plus sortir, mais j'imagine que les Iraniens vont tout faire pour bloquer aussi les flux de pétrole et de gaz du Qatar, de l'Irak, etc. Et donc à ce moment-là, c'est la logique des marchés qui devraient l'emporter. Et les marchés, en fait, réagissent très mal à la perspective que les marchés soient privés de 20% du pétrole mondial à moyen terme. Et le prix du dollar devrait exploser. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Mohamed, le fameux Mohamed Bagher Ghalibaf, dans un message, un tweet. Il a expliqué, il a dit en substance, messieurs les Occidentaux, profitez bien du dollar du galon à 4-5 dollars parce que bientôt vous en rêverez et ce sera trop tard. Donc c'est eux aussi jouent toujours la montre et ils laissent entendre qu'ils ont le temps pour eux. Voilà où on en est aujourd'hui. Il y a une quatrième hypothèse, c'est que en fait les Américains veuillent pousser les Iraniens à la faute. Je veux dire, si les Américains bloquent le pétrole iranien sortant du Golfe, on peut imaginer que les Iraniens se vengent en bloquant par la force le pétrole des monarchies du Golfe Persique, dont les États-Unis ont dit qu'ils étaient libres de rentrer et de sortir. On peut imaginer que les Iraniens décident de frapper militairement ces bâtiments. Et à ce moment-là, ce serait les Américains montreraient du doigt les Iraniens en disant « Voyez, nous étions pour la trêve, pour les discussions. Les Iraniens ont rompu l'accord. C'est eux qui reprennent l'offensive. Et à ce moment-là, nous sommes en droit de continuer et de poursuivre et d'augmenter les frappes sur l'Iran. » On peut imaginer aussi ce scénario. En tout état de cause, Richard, cette séquence est, comment dirais-je, elle est à haut risque. Pour les deux parties, et on verra dans les jours qui viennent de quel côté retombe la pièce, mais pour l'instant bien malin qui sait de quel côté elle pourrait véritablement retomber. Une chose est sûre, c'est que nous sommes à nouveau dans une étape, nous avons franchi une nouvelle étape qui pour l'instant est hautement dangereuse pour l'économie mondiale et qui pourrait à nouveau faire reparler la poudre et le canon au Moyen-Orient.
Alors, je sais qu'on s'était dit qu'on allait parler de l'Afrique, on va y consacrer 3-4 minutes, mais malgré tout, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de la manière dont Trump est perçu en Europe, et notamment avec ses soutiens qui jusqu'à maintenant étaient indéfectibles, comme Giorgia Meloni.
Oui, c'est une très bonne... merci de cette relance, c'est très intéressant. Donald Trump a dit, lorsqu'il a annoncé le blocus, il a dit d'ailleurs « Londres me suit, sera avec nous pour contrôler en fait les navires transitant par le détroit d'Ormuz ». Et aussitôt, Keir Starmer, le premier ministre britannique, a dit « Non, pas du tout, il est hors de question qu'on s'associe à cette opération ». Ce qui est assez intéressant quand même, puisque les Britanniques en général sont considérés comme les sous-traitants silencieux et bons élèves de l'Amérique. Donc même le sous-traitant de l'Amérique en Europe, le principal sous-traitant d'Amérique en Europe, ne veut pas être associé à cette entreprise. Et comme vous l'avez justement remarqué, Madame Meloni, qui était considérée jusqu'à présent comme totalement alignée, en tout cas dans les déclarations sur la politique américaine, qu'il s'agissait d'ailleurs de Biden ou de Trump, hein, les deux sont vrais, a pris largement et publiquement ses distances avec cette opération à haut risque, ce qui signifie quand même que aucune capitale européenne n'est convaincue par cette nouvelle étape de la guerre américaine contre l'Iran, et que toutes les capitales européennes sont assez à l'unisson pour dire que c'est une opération peu lisible, à haut risque et dont il faut absolument se tenir à l'écart. À telle enseigne d'ailleurs que il y a aujourd'hui une compétition entre Londres et Paris pour concrétiser une idée qui, à mon avis, est assez intéressante, assez maligne en tout cas, politiquement. C'est l'idée d'une coalition multinationale de flotte trouver un passage avec les Iraniens pour réouvrir le détroit, mais de manière non offensive. Alors, on peut critiquer, on peut dire que c'est une belle construction politique. Je ne suis pas certain. Il faut attendre de voir ce que peut donner cette initiative, d'autant que les Iraniens ont évidemment besoin de trouver en quelque sorte des partenaires pour montrer en fait leur bonne volonté politique et pour affaiblir la position américaine. Position américaine dont on le comprend bien, les Américains sont encore plus seuls aujourd'hui face à l'Iran. Je mets de côté le cas israélien. Les experts français les mieux informés parlent de solitude stratégique à propos des États-Unis. Certains m'expliquaient qu'au tout début, alors ça c'est public, au tout début du conflit, Emmanuel Macron l'a dit, les États-Unis et l'Israël ont lancé cette opération sans en référer ou sans tenir informés leurs proches alliés. Et quelques jours plus tard, en fait, ils ont enregistré les capitales européennes et en particulier françaises. Paris a enregistré des signaux émanant de Washington au plus haut niveau les incitant en fait à rejoindre d'une manière ou d'une autre la coalition américaine. Trump l'a dit, et d'ailleurs il était si fâché que les signaux ne produisent pas d'effet qu'il l'a menacé, il a brandi l'idée de sortir directement de l'OTAN, ce qui à mon avis il ne fera évidemment pas, car l'Amérique a vraiment besoin, les usines américaines ont besoin des armées européennes pour alimenter en fait leur trésor de guerre et leurs commandes. Donc évidemment que on n'ira pas jusque là, ou alors le monde vraiment sera différent dans les prochaines années. Mais on voit bien que là, la solidité stratégique américaine est importante. Par ailleurs, toutes les capitales européennes aujourd'hui sont en train de faire leur compte et s'affolent en voyant les additions négatives qui augmentent de jour en jour. En fait, le surcoût produit par la prime géopolitique sur les cours du pétrole et du gaz sont absolument monstrueux. Les premiers signaux politiques de tension dans les capitales européennes sont présents. La semaine dernière, jusqu'à ce week-end, toute l'Irlande du Sud était, la moitié de l'Irlande du Sud était paralysée par le mouvement de grève des agriculteurs et des transporteurs irlandais qui protestaient contre l'explosion du coût du pétrole, du diesel, et encore ce diesel est passé de mémoire de 1,70 à 2,20 ou 2,30, ce qui par rapport à la France n'est pas encore aussi grave. Ils ont bloqué la principale raffinerie de l'île, ils bloquaient tout le centre du Dublin, et dimanche, après avoir menacé les transporteurs et les agriculteurs de représailles, le gouvernement Dublin a décidé de céder du l'Est et a reconduit en fait les mesures compensatoires en fait aux professionnels pour compenser en fait le surcoût du diesel. Donc vous voyez que c'est un exemple, mais dans toutes les capitales européennes, les gouvernements prennent ça très au sérieux. L'Allemagne vient de décider de prendre une partie des fonds consacrés à la transition écologique pour financer un delta, une partie en fait, pour compenser une partie de l'augmentation de l'essence pour les consommateurs allemands. Et donc tous les pays aujourd'hui sont dans la même situation, avec quand même un bémol, c'est que les plus endettés sont évidemment les plus fragiles. Et dans ce lot-là, il y a évidemment notre France d'Emmanuel Macron, qui n'a plus un sou pour compenser éventuellement sérieusement les problématiques énergétiques à la pompe. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. Et enfin, dernier élément de solitude de Donald Trump, c'est sa lamentable caricature en fait du pape que tout le monde a vu sur les réseaux sociaux. Il s'est grimé en Jésus-Christ, distribuant en fait les bénédictions à ses affidés et chassant ceux qui n'étaient pas dans son scope. Il s'est attiré une réponse, j'ai trouvé très, très digne et très diplomatique, mais digne de Léon XIV, qui, lors de son voyage en Algérie hier, a répondu « Moi, je ne fais pas de polémique avec le gouvernement américain. » Et le gouvernement américain, d'ailleurs, ne me fait pas peur, a-t-il dit. Enfin, il a eu une formule qui voulait dire ça. Oui. J'ai trouvé que c'était à la fois courtois et ferme. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. Et franchement, même les soutiens, je dirais, ceux qui avaient envie de soutenir Donald Trump jusqu'à présent, commencent à trouver que Donald Trump, en fait, finit par lasser. Voilà, on en est là aujourd'hui. On va voir comment cette guerre se poursuit. Mais il y a, je vous ai présenté tous les scénarios du pire au meilleur. Parce que, et dernier point, comme je disais, pendant ce temps-là, les négociations continuent. D'ailleurs, les Iraniens et les Américains ont annoncé qu'il y aurait sans doute un prochain round de négociations directes. Sont à la manœuvre les Pakistanais, on l'a vu, qui ont hébergé la négociation de samedi, mais également les Turcs. On peut citer aussi les Égyptiens et évidemment les Omanais qui, eux, sont toujours de la partie. Donc, les choses, il y a deux niveaux, en fait, de lecture. Il y a un niveau tactique militaire et il y a le niveau des négociations politiques qui se poursuit.
Merci beaucoup, Meredith Raffray.
Et aidez Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Et tout de suite, un reportage de Benjamin Diesbach sur le salon du barbecue, de la viande sainte dans un corps sain, avant la chronique de Victor Hubert.
Ligne droite.
Ou membres de nos familles, jetés dans cet effort insensé. Ce dimanche 12 avril 2026, nous n'étions pas venus dans le bois de Vincennes pour courir le marathon de Paris. Pas plus que nous étions venus encourager quelques amis ou membres de nos familles jetés dans cet effort insensé. Non, nous étions venus assister à la 5e édition du Salon du Barbecue. Rendez-vous incontournable des passionnés de la grillade.
Nous, à la base, on est trois copains qui adorent manger, etc. Et on adore surtout le barbecue. Et ça se verra, ma petite bidoche. Mais en tout cas, l'idée de créer le barbecue, c'est qu'il n'y avait pas d'événement dédié au barbecue. Et que ça soit pour le grand public et même pour les professionnels et les passionnés. Parce que les passionnés sont presque des professionnels aujourd'hui. Parce que c'est vraiment un monde, c'est assez niche quand même, le barbecue. Mais ça réunit tout le monde. Faut savoir que le barbecue, c'est le plus grand réseau social du monde. Et en fait, on a décidé de créer cet événement parce qu'il fallait faire un événement autour de ça. Et que le marché français aujourd'hui était en retard par rapport à des marchés comme l'Allemagne ou l'Amérique. L'humanité a été créée autour du barbecue, hein, c'est la base. Donc rien que ça, on a tous au fond de nous, en tant qu'humains, la volonté de vouloir cuisiner, même si on n'est pas bon ou pas mauvais ou on ne s'y intéresse pas. Quand on est autour d'un barbecue, même si on ne cuisine pas, la personne qui cuisine, si elle est forte, bah voilà, elle va réussir à vous faire passer un bon moment.
Ouais, je viens pour le plaisir parce que on utilise le barbecue chez nous assez régulièrement. Et là, par curiosité, on vient pour bien manger et pour profiter des produits locaux, quoi. Alors nous, on aime beaucoup le poulet à la crapotine. Donc c'est un poulet entier qui est coupé en deux. C'est imbibé de sucre de canne. C'est une recette antillaise à la base. Et c'est excellent, c'est très juteux et c'est assez gourmand, mais c'est assez simple en même temps, assez sobre. Et après, on peut mélanger avec pas mal d'épices.
Bonjour, je m'appelle Raphaël. Alors aujourd'hui, on fait l'animation de démonstration de barbecue sur le Barbecue Expo. Effectivement, Napoléon, c'est une marque canadienne. On fête nos 50 ans cette année. Et pour marquer le coup, on explique pendant 3 jours. C'est la fête du barbecue. C'est la fête du grill. Et nous, notre devise, c'est de passer un moment convivial avec les gens. Et du coup, on fait tester les produits aux gens. On leur donne, comme à Top Chef, plein d'ingrédients. Des viandes, du poisson, des légumes. Et on fait des contests, des duos, des petits battles. On va faire des contests de burgers, des contests de pizza, des contests de hot dog. Et l'idée, c'est qu'ils s'approprient le produit.
La sauce piquante, aujourd'hui, ça vient de plus en plus sur le marché français, les barbecues français. Ça change du ketchup, la mayonnaise classique, et puis ça apporte un côté fun et rigolo et convivial en plus de ce qu'on a déjà sur la table. Donc en plus du vin, on peut rajouter des sauces piquantes, ça a un côté convivial génial, on peut s'amuser, on peut tester ses limites, et ça c'est merveilleux, enfin, c'est des bonnes parties de rigolade. Et nous on est basé en Ardèche, voilà, l'atelier est en Ardèche, je fais pousser les piments pour les deux premières sauces, on a créé l'Ardèche Hot. Voilà, en synonyme pour l'Ardèche. Et après, la castagna avec de la crème de marron, parce que la châtaigne, c'est l'emblème de l'Ardèche et c'est le fruit départemental, voilà, comme la Corse.
Sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et nous retrouvons désormais Victor Hubert pour sa chronique hebdomadaire. Victor Hubert, bonjour, je rappelle que vous êtes directeur général d'Academia Christiana. Est-ce que vous êtes bien avec nous ?
Bonjour Alexandre, bonjour chers auditeurs.
Alors le pape Léon XIV a entamé une suite de voyages pontificaux et de rencontres diplomatiques ces derniers jours. On a beaucoup entendu parler. Est-ce que vous pourriez revenir avec nous sur les grands événements qui ont marqué son agenda ?
Oui, tout à fait. L'élection de Léon XIV a véritablement inauguré une nouvelle ère pour la diplomatie du Saint-Siège. Le pape s'est rendu en Turquie, au Liban, à Monaco. Il a reçu le président Emmanuel Macron au Vatican et il effectue en ce moment même une grande tournée en Afrique. Ça montre donc un pape qui conçoit sa mission apostolique non pas simplement en restant dans ses appartements au Vatican, mais à travers des déplacements physiques, des rencontres.
Alors justement, face à cet agenda si dense, une question se pose. Le pape Léon XIV est-il un pape politique ou un pape missionnaire? Quelle est sa ligne diplomatique?
Alors il en réalité les deux. Sa ligne diplomatique, ça repose sur une synthèse, c'est-à-dire à la fois rappeler le droit international pour servir une mission, une finalité missionnaire. Donc c'est un pape, si on pourrait dire politique entre guillemets au sens noble, parce qu'il aborde les relations internationales à travers le prisme du droit, mais il adjoint, on pourrait dire de manière un peu subtile, une invitation à la désescalade des conflits. Il rappelle finalement la paix, le Christ étant aussi le prince de la paix. Et c'est un pape missionnaire parce qu'il se fait le porte-voix, de tous ceux que le système international rend invisibles. On peut penser notamment aux communautés chrétiennes menacées au Moyen-Orient.
Alors, revenons sur ses premiers déplacements. Pourquoi s'est-il rendu en Turquie et au Liban?
Alors, en Turquie, l'objectif officiel, en tout cas, était de consolider les liens avec le monde orthodoxe, mais aussi d'ouvrir un dialogue avec l'islam sunnite. Au Liban, dans un pays donc, qui en ce moment est exsangue, frappé par la guerre, l'effondrement économique, son discours s'est apporté aussi sur la réconciliation nationale entre les différentes communautés libanaises, tout en formulant une mise en garde d'une grande fermeté face à toute forme, on pourrait dire, d'extrémisme politico-religieux, de milices armées. On comprend évidemment à quoi il peut faire référence dans ce contexte.
Et pourquoi ce détour qui peut paraître, pour le coup, un petit peu surprenant par la principauté de Monaco? Qu'est-ce qu'il a déclaré là-bas?
Alors effectivement, c'est assez étonnant, une visite dans une principauté aussi petite que Monaco. Alors certains commentateurs s'attendaient vraiment à un discours un petit peu exclusif, centré sur l'économie, mais le véritable fil rouge de cette journée monégasque, ça a été la défense de la vie. Il ne faut pas oublier que Monaco, c'est un des rares États européens où l'avortement, l'euthanasie, le suicide assisté ne sont pas légalisés. Et donc le pape Léon XIV a saisi cette occasion exceptionnelle pour faire de la principauté une tribune sur le sujet justement de la vie. Il a rappelé son attachement, enfin l'attachement de l'Église à la protection de la personne humaine, de son commencement jusqu'à sa fin naturelle. Il a souligné que la véritable grandeur d'une société, ça ne se mesure pas avec des richesses financières, mais à sa capacité finalement de défendre les plus vulnérables. Donc c'est un message, on pourrait dire, un peu à contre-courant de la culture de mort qui prévaut en Occident.
Un message qui a dû résonner particulièrement lors de sa rencontre récente avec Emmanuel Macron. Que se sont-ils dit?
Exactement. Alors l'entretien au Vatican a été très long, diplomatiquement sans doute utile. Ça a permis aussi d'aborder la question de la paix au Liban, de jouer les médiateurs pour un journaliste français qui est prisonnier en Algérie. Mais le discours de Monaco éclaire aussi une divergence doctrinale persistante entre la France et le Vatican sur les questions de bioéthique. Le pape maintient un équilibre, on pourrait dire, délicat, c'est-à-dire qu'il reçoit le président français, il coopère, on va dire, avec l'Élysée sur les questions de paix internationale, mais il signifie quand même son désaccord total, frontal, face au projet de loi français sur l'euthanasie, face à l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Donc pour Léon XIV, il n'y a pas de diplomatie crédible sans aussi une défense inconditionnelle de la vie, de la dignité humaine. Il a rappelé au président français l'importance aussi de la liberté scolaire pour les écoles catholiques qui sont menacées.
Et puis le pape y était hier en Algérie.
Tout à fait. Alors vous avez sans doute entendu parler de cet attentat un peu mystérieux qui a surgi après de nombreuses années où il n'y avait plus eu d'attentat terroriste en Algérie. Mais pour l'instant, l'analyse, on pourrait dire, de ces faits reste encore un peu mystérieuse. En tout cas, il s'agit surtout du tout premier voyage d'un pape sur le sol algérien. Alors, dès son arrivée à Alger, le pape Léon XIV a posé des actes symboliques. Il s'est inscrit évidemment dans les pas de Saint-Augustin, parce qu'il faut rappeler quand même que Saint-Augustin a grandi sur le sol algérien avant l'islam. Et il s'est présenté donc comme... il a présenté Saint-Augustin comme un enfant du pays, et lui-même étant un augustinien, il s'est présenté justement comme un héritier de Saint-Augustin. Il a affirmé qu'il venait parler non seulement aux catholiques d'Algérie, mais à toute l'Algérie, aux Algériens, à ce pays. Et lors de sa rencontre donc, au palais présidentiel avec les autorités, la société civile, tout le corps diplomatique, il a lancé un appel. Vous pouvez contribuer à imaginer et à instaurer une plus grande justice entre les peuples en respectant la dignité de chacun et en vous laissant toucher par la douleur des autres. Donc finalement, il essaye de mettre en avant finalement une pacification, encore une fois, des relations au sein de ce pays.
C'est également rendu sur le mémorial des martyrs de la décennie noire.
Alors absolument, donc en se recueillant sur le mémorial des martyrs, le pape a salué la mémoire des chrétiens qui ont été victimes des crimes des nationalistes musulmans d'Algérie. On peut penser notamment à Christian de Chergé, qui était un cistercien français qui est mort pendant cette période-là. Il a également donc, rencontré la communauté chrétienne à la basilique Notre-Dame d'Afrique. Et son message est le suivant. Hein. Certes, donc, il faut se souvenir des douleurs du passé, qu'il s'agisse à la fois de la colonisation, de cette décennie noire, mais toutes ces douleurs ne doivent pas nourrir le ressentiment. Il faut avancer aujourd'hui, il faut finalement être capable de faire la paix. Et l'Algérie est un pays aussi où le christianisme est soumis à un contrôle drastique. L'Église catholique, elle est tolérée au nom d'une diplomatie internationale, c'est-à-dire qu'en gros, on ne persécute pas trop les chrétiens pour que l'Algérie ne soit pas trop mal vue. Mais la loi punit de prison quiconque chercherait à affaiblir la foi d'un musulman. Donc ça restreint quand même énormément la mission de l'Église. Cette visite du pape, on peut donc la lire comme finalement quelque chose d'assez habile. En tant que représentant religieux et diplomatique, bah, il donne l'occasion à l'État algérien de redorer son blason, de gagner en légitimité sur la scène internationale, de se donner une image peut-être un peu plus tolérante, mais il oblige aussi en quelque sorte l'État algérien à renvoyer des signaux objectifs pour que cette rencontre ne reste pas qu'une sorte de diplomatie de façade hypocrite. Donc une visite pontificale dans un pays musulman, c'est quelque chose de très audacieux. Je pense que le pape cherche à adoucir par cette visite le contrôle qu'on impose aux communautés chrétiennes et donc favoriser une liberté religieuse qui est absolument nécessaire pour la mission.
Victor, on observe aussi que le pape a été la cible de critiques très virulentes de la part de Donald Trump. Pourquoi le président américain s'en prend-il à lui? Est-ce parce que le pape serait pour l'Iran et contre Israël?
Alors non, je ne crois pas que le pape justement prenne de telles positions partisanes, que ce soit envers l'Iran ou envers Israël. Son positionnement repose sur la recherche de la paix, la protection des civils, des minorités. Et donc si Donald Trump a attaqué le pape Léon XIV, et, c'est parce que Léon XIV justement a condamné publiquement les menaces de Trump d'anéantir une civilisation entière lors de cette crise nucléaire avec l'Iran. Trump cherche en quelque sorte un peu à neutraliser le poids, on pourrait dire, moral du Vatican en vue justement de toujours lui-même faire en sorte que sa rhétorique militaire paraisse comme étant finalement la voie du bien contre la criminalité mondiale, etc. L'administration américaine tente même des pressions un petit peu diplomatiques, mais le pape, qui connaît parfaitement les États-Unis, justement, est capable aussi de résister de manière assez intelligente, justement, face à ces pressions.
Et sur l'immigration, le pape Léon XIV souhaite-t-il promouvoir l'ouverture des frontières?
Alors non, je ne crois pas que le pape fasse un militantisme politique au sens séculier, ce qui condamne moralement, et effectivement, il le rappelle à travers ses différentes prises de position, en s'appuyant sur l'Évangile, ce sont des déportations aveugles, les séparations des familles aux frontières pratiquées brutalement, qu'ils jugent immorales.
On va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup, Victor Aubert, d'avoir été avec nous ce matin, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
À bientôt, chers auditeurs.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour Gilles.
Bonjour Alexandre, bonjour Franck, chers auditeurs. La presse se fait écho ce matin de la première journée du pape en Algérie. Dans l'avion qui le conduisait à Alger, le pape a répété qu'il ne se comportait pas comme un politicien, mais qu'il prêchait toujours la paix. La Croix rapporte ses propos en réponse à la question d'un journaliste anglophone. « Je n'ai peur ni de l'administration Trump, ni de parler haut et fort du message de l'Évangile ». Dans un message publié dans la soirée sur son réseau Truth Social, Donald Trump a frontalement critiqué Léon XIV, le qualifiant de faible contre la criminalité et de catastrophique en politique étrangère. Comme le remarque une observatrice interrogée par La Croix, le président semble sincèrement convaincu d'être un élu de Dieu. Trump se voit un peu comme un croisé et dans ce cadre, l'image d'un pape qui lui résiste est insupportable. Et si l'opinion s'interroge sur l'opportunité d'une telle attaque dans un pays qui compte 60% de chrétiens et 20% de catholiques et où sa guerre contre l'Iran est très impopulaire. Et de son côté, toujours dans La Croix, les journalistes rapportent que le très médiatique Robert Barron, évêque de Rochester dans le Minnesota, pourtant réputé proche de Donald Trump, a dénoncé des propos irrespectueux et inappropriés. C'est au pape qu'il appartient d'exposer la doctrine catholique et les principes qui régissent la vie locale, a-t-il tranché. Le Figaro raconte qu'hier, le pape a salué la communauté catholique comme l'héritière des 19 religions et religieuses martyrs d'Algérie, dont les moines de Tibirine, et leur sang est une semence vivante qui ne cessera jamais de porter du fruit, a-t-il souligné. Leur présence dans ce pays musulman représente aussi la voix ardente d'Augustin d'Hippone. Ces grands témoins du christianisme lancent un appel lumineux à être aujourd'hui des signes crédibles de communion de dialogue et de paix. Le pape a encouragé les chrétiens en trois directions, la prière qui unit et humanise, fortifie et purifie le cœur, l'Église algérienne grâce à la prière sème de l'humanité, de l'unité, de la force et de la pureté autour d'elle, atteignant des lieux et des contextes que seul le Seigneur connaît. La charité ensuite face à la haine et à la violence, les martyrs d'Algérie sont restés fidèles à la charité jusqu'au sacrifice de leur vie, aux côtés de tant d'hommes et de femmes, chrétiens et musulmans. Fin de citation. Alors, où l'on reparle des violences à l'école, Le Parisien fait sa une sur les violences et les agressions sexuelles avec ce titre choc, des caméras dans les écoles, point d'interrogation. Après le scandale du périscolaire et la suspension de 76 animateurs à Paris, dont 31 pour des violences à caractère sexuel, l'opposition demande notamment l'installation de la vidéosurveillance dans les 626 écoles de la ville, l'arme ultime de Rachida Dati. Un œil inquisiteur, dissuasif et continu sur le vivier de 15 000 animateurs qui s'occupent des près de 104 000 élèves de maternelle et d'élémentaire de la cantine aux siestes et changes pour les plus jeunes jusqu'au fameux temps d'activité périscolaire. Et de son côté, la Commission nationale de l'informatique et des libertés est catégorique. Si des caméras de surveillance peuvent être effectivement installées à l'intérieur des établissements scolaires, elles ne filment que les couloirs ou encore les halls d'entrée. En aucun cas, des caméras ne pourraient filmer au sein des lieux de vie des enfants, comme s'apprête à le proposer ce mardi la droite parisienne. On apprend ainsi, toujours dans Le Parisien, qu'en Inde, dans nombre de localités, les salles de cours sont filmées, la famille peut même accéder à la vidéo à distance. Alors, c'est le cas du gouvernement régional de New Delhi, qui depuis bientôt 10 ans a installé des caméras dans toutes les écoles publiques. Et au Japon, des caméras sont même installées en classe afin d'empêcher les enfants de s'endormir. Une intelligence artificielle scrute en permanence les élèves et repère ceux qui montrent des signes de fatigue. Le professeur peut ainsi consulter un écran où il voit au-dessus de la tête de chaque enfant leur inscription qui décrit en un mot son comportement assis, couché, debout. Voilà, c'est à lire dans Le Parisien. Et puis, toute la presse revient sur la victoire de Viktor Orban en Hongrie. Il faut lire le site Boulevard Voltaire qui nuance ce qui vient de se dérouler. Au-delà de la victoire de Peter Magyar, Bruxelles se réjouit sans doute un peu vite, car c'est bien une coalition de droite et centre-droit, écrit Étienne Lombard, qui a mené à la victoire Peter Magyar le 12 avril. Patriote, il a su fédérer largement les mécontents, à Budapest et dans les grandes villes, mais aussi une partie des ruraux qui votaient massivement pour Viktor Orban jusqu'à présent. Conservateur, Peter Magyar fera une politique globalement conservatrice et très anti-immigration. Nous protégeons les travailleurs hongrois à partir du 1er juin 2026 et jusqu'à nouvel ordre. Nous autoriserons zéro importation de travailleurs invités non hongrois en dehors de l'UE, a-t-il déclaré à peine élu. Même s'il rapprochera sans doute son pays de Bruxelles et qu'il a déjà annoncé un grand ménage institutionnel pour écarter des lieux de pouvoir tous les fidèles de Viktor Orban, Nathalie Loiseau et quelques autres se sont probablement emballés un peu vite à son sujet. Et Boulevard Voltaire ajoute « Il est ainsi probable que Magyar va monnayer la levée du veto hongrois sur l'aide de l'UE » à l'Ukraine, contre la levée des sanctions bruxelloises, contre Budapest et la réouverture du pipeline russe coupé par l'Ukraine. Alors, loin d'être une rupture idéologique, la clé de ces élections est le vent de dégagisme venu ponctuer une usure du pouvoir dont les sondages ont confirmé la visibilité croissante depuis 2 ans. Voilà, c'est à lire sur le site Boulevard Voltaire. Et puis, à voir actuellement l'exposition consacrée à Calder, à la Fondation Vuitton dans le bois de Boulogne. Le Figaro consacre une page à ce génie du mobile et comme l'écrit Valérie Duponcel, arrivé il y a 100 ans en France et mort il y a 50 ans à New York, le grand artiste américain revendique un espace du merveilleux, de l'acrobate en fil de fer au mastodonte en acier. Alors Calder, c'est une peinture en 3 dimensions. Il vous donne l'opportunité de la ressentir au creux de votre estomac, analyse son petit-fils, Alexander Rower, dit Sandy Rower, président de la Calder Foundation,
très impliqué dans cet hommage, XXL. Et en son sens de l'harmonie, son sens de l'harmonie est tel que si l'on retirait une ou deux branches d'un de ses mobiles, même s'il restait en équilibre, le public sentirait qu'il manque quelque chose sans même avoir vu une photo de l'œuvre ou lu un texte de référence. Voilà ce qu'ajoute Alexander Auer, c'est à lire dans Le Figaro. Et moi je vous dis à demain.
À demain, Gilles, mes chers auditeurs, nous, on va pas encore vous dire à demain parce que il faut qu'on vous fasse une petite confidence.
Oui, nous n'avons pas trop d'argent, nous avons juste ce qu'il faut et on aimerait bien en avoir un petit peu plus pour faire plus de reportages, pour étoffer l'équipe, pour avoir plus de moyens et surtout avoir une trésorerie un peu plus rassurante. Soutenir.rc.fr pour faire votre don en ligne en fonction de vos moyens, soutenir.rc.fr ou vos chèques libellés bien entendu à l'ordre de Radio Courtoisie au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, merci d'avance.
Voilà, moi je reviens de 5 jours de reportage en Hongrie, sur notre chaîne YouTube. Cela étant, ça coûte un peu d'argent, Franck a raison. Donc, on a besoin de vous et tout de suite, on écoute eh bien Delphine Jarraud qui nous parle des 10 ans de la loi sur la prostitution.
Ligne droite. Debout les Français.
Pour ce premier entretien, nous allons parler, chers auditeurs, des 10 ans de la pénalisation des clients de la prostitution. Voilà, ça fait 10 ans que la nouvelle loi de 2016 est passée, la loi qui sur la lutte contre le système prostitutionnel. Et ça fait 10 ans donc que la France est un pays classé comme abolitionniste, voilà, pour l'abolition de la prostitution. Pour en parler, nous recevons Delphine Jarraud, déléguée générale de l'Amicale d'Unis. Delphine Jarraud, bonjour. Est-ce que vous nous entendez ?
Oui, bonjour.
Alors, la première question que je voulais vous poser, c'est évidemment, ça fait 10 ans, donc c'est le moment de tirer peut-être un premier bilan de cette politique. Ce qu'on constate, c'est d'abord que, évidemment, la prostitution n'a pas disparu, mais au contraire, qu'elle s'est métamorphosée depuis cette loi.
Oui, elle s'est métamorphosée comme tout ce qui s'est passé depuis 10 ans, et plus largement depuis l'arrivée d'Internet dans notre paysage de tous les jours. Donc les réseaux de proxénétisme, de traite, se sont adaptés aux réalités de mise en contact des personnes.
Et voilà, donc effectivement, il y a une forme de digitalisation de la prostitution. D'un autre côté, on estime à peu près à 40 000 donc le nombre de prostituées aujourd'hui en France, et un nouveau phénomène qui existait déjà auparavant, mais qui est pourtant en croissance depuis cette loi, c'est tout de même la prostitution des mineurs. Alors, comment ça se fait ?
Alors déjà, ce sont des personnes en situation de prostitution. Je le dis parce que prostituée a suffisamment de stigmates. Je préfère ce terme. Ensuite, quant aux enfants, on parle d'exploitation sexuelle des enfants. En effet, un enfant ne se prostitue pas. Voilà, donc c'est juste une visibilité grâce aux médias notamment, grâce aux pouvoirs publics qui ont mis ça à l'agenda politique. Les mineurs, c'est une exploitation qui a toujours existé, qui repose sur la pédocriminalité. La pédocriminalité, on est tous bien conscients que ça existe depuis, hélas, très très longtemps, de la même façon, la domination masculine et qui réduit des femmes, d'autres hommes, des personnes transidentitaires à des objets sexuels, à des fins de réalisation de besoins soi-disant irrépressibles sexuels, et que ça ne dérange absolument pas de réduire à des choses, à des objets, d'autres êtres humains. Et donc la loi, je tiens à le dire, n'est pas que la pénalisation des clients, c'est une loi qui est cohérente, qui a été votée après 2 ans et demi de débat, une résolution votée à l'unanimité dès 2011 à l'Assemblée nationale. On n'est pas devenu abolitionniste, on avait ratifié la convention de 1949, on l'a ratifié en 1960. Donc c'est global. Bon, à part une entorse en 2003 qui pénalisait le racolage passif, globalement il s'agissait quand même d'un engagement abolitionniste de la France. Donc la loi, elle repose sur 4 piliers: la prévention, le renforcement de la prévention, notamment égalité filles-garçons et une approche sur la vie affective égalitaire. Ensuite, c'est la protection des personnes en situation de prostitution qu'on reconnaît comme des victimes d'un système. Et enfin, le renforcement de la répression des réseaux qui les exploitent, qui en tirent profit, et la pénalisation des clients. Et en face, puisqu'il s'agit de changer de paradigme, la dépénalisation des personnes en situation de prostitution. Donc la loi doit absolument pas réduite à la pénalisation des clients.
Et d'un autre côté, quels sont donc les effets concrets de cette loi? Qu'est-ce que vous constatez justement 10 ans plus tard?
10 ans plus tard, les parcours de sortie de la prostitution qui ont été instaurés par cette loi ont permis l'émancipation de 2500 personnes du système prostitutionnel. C'est un parcours qui, pendant 2 ans, permet une réinsertion socio-professionnelle des personnes avec une allocation faible, hein, 559 euros, donc légèrement inférieure au RSA, mais une allocation et une autorisation provisoire de séjour. Pourquoi le législateur a pensé à cette autorisation provisoire de séjour? C'est parce que les victimes du système prostitutionnel sont captées par les exploiteurs parce que vulnérables, et parmi les plus vulnérables, les personnes sans titre de séjour qui ont été parfois captées par la traite des êtres humains et qui ont traversé la Méditerranée ou l'Atlantique ou viennent de l'Est pour assouvir les besoins soi-disant irrépressibles sexuels d'hommes qui sont entre 14 et 20% de la population qui ont recouru. Donc, ces parcours sortis de la prostitution ont des résultats extraordinaires puisque les personnes ont une capacité de résilience, de réinsertion extrêmement forte et la majorité extrêmement importante à trouver un travail. L'apprentissage de la langue française, le travail, un hébergement, voire un logement. Et il s'agit d'un vraiment un tremplin extrêmement important. Pourquoi les personnes françaises sont extrêmement minoritaires dans ce dispositif? Parce qu'elles bénéficient du même accompagnement, mais sans passer par ce parcours, puisqu'elles ont par définition une carte d'identité et le RSA, donc pas besoin de passer par ce dispositif. Donc il n'y a pas besoin de ce parcours pour tout le monde pour être accompagné vers la sortie ou la réduction des risques et des dommages.
Il y a également un autre sujet auquel on pense, notamment pour des histoires un petit peu terribles qui ont eu lieu ces derniers mois, ces dernières années. C'est même la protection même physique des prostituées, dans le sens où, effectivement, par exemple, on entendait parler de l'affaire du bois de Vincennes qui a eu lieu l'année dernière, il me semble. De manière générale, est-ce qu'il y a aussi une évolution sur leur protection même physique?
Les personnes en situation de prostitution sont soumises à une violence extrême et quotidienne, qu'elles soient sur des routes, sur des bois, dans l'espace public globalement, qu'elles soient à l'hôtel, dans des Airbnb. Avant, après la loi, elles sont malheureusement soumises à d'extrêmes violences, puisqu'il faut savoir que les hommes qui ont recours à la prostitution, 14 à 20% de la population, sont d'un ce qu'on appelle sexisme hostile. Et des études l'ont révélé, notamment le rapport du Haut Conseil à l'égalité sur le sexisme. Et c'est donc des personnes qui estiment, donc 24% des hommes sont d'un sexisme hostile, donc estiment vraiment les femmes comme inférieures. Donc autant vous dire que les prostituées sont
le réceptacle un peu, oui.
Le summum des personnes qu'ils haïssent, et leurs violences sont extrêmes à leur égard. Sans compter les violences du réseau lui-même d'exploitation. Donc oui, ces personnes ont toujours subi des violences, c'est dramatique. Elles sont déjà extrêmement vulnérables avant d'être captées par les systèmes prostitutionnels et leur santé physique, psychologique, sexuelle se dégrade évidemment fortement pendant l'exploitation.
Et également, je reviens sur cette affaire de la pédocriminalité, parce que c'est devenu un sujet qui est de plus en plus courant aujourd'hui. On pense notamment à ce qui s'est passé à Paris, c'est un événement de la campagne municipale, mais on peut aussi évoquer bien cette histoire de l'aide sociale à l'enfance, où de véritables réseaux se développent, ou même à un niveau un petit peu plus international, l'affaire Epstein. Comment on traite justement ces cas de et de pédocriminalité qui sont évidemment on l'imagine, assez différents des cas de proxénétisme classique?
En tout cas, c'est la même mécanique qui joue, hein. C'est-à-dire la mécanique de la domination. Et à partir du moment où vous ne considérez pas l'autre dans l'altérité, dans l'égalité, vous pouvez inférioriser, que ce soit une femme, un homme, une personne transidentitaire, et évidemment un enfant qui, par son âge, est beaucoup plus vulnérable. Mmh. Donc, il s'agit d'un système de domination. De domination très très puissante, très destructrice. Concernant les enfants, oui, il y a des pédocriminels, et la majorité de ces pédocriminels, ils ne sont pas dans les écoles à Paris ou ailleurs, ils sont là évidemment en minorité, mais ils sont surtout derrière leurs écrans à rechercher des victimes, oui. Et notamment avec l'achat d'actes sexuels auprès de jeunes, donc ils savent parfaitement la minorité, puisque les clients, les acheteurs prostitueurs parlent sur les chats en même temps qu'ils cherchent des proies. Donc, ils savent très bien qui se présente comme ayant 18 ans et a largement moins que 18 ans.
Et d'un autre côté, autre point, je ne sais pas si vous avez travaillé particulièrement sur ce sujet, mais c'est aussi la disparité géographique, dans le sens où, selon ce que on a pu, ce qu'on peut voir sur ces 10 ans, c'est un sujet qui est essentiellement traité à Paris, mais dans le reste de la France, alors que la prostitution existe partout, en fait, finalement, il y a très peu de condamnations dans les autres, dans certains départements. Comment ça se fait ?
Alors, les réseaux de traite, les réseaux de proxénétisme sont sur toute la surface du territoire français, outre-marin ou hexagonaux. En revanche, la pénalisation des clients via une amende de 1 500 euros, 3 750 si les personnes sont récidivistes, et je ne parle pas pour les mineurs, ça peut aller jusqu'à qualification de viol pour les moins de 15 ans. Mmh. Oui, effectivement, c'est extrêmement concentré. Je ne sais absolument pas pourquoi les forces de sécurité intérieure n'agissent pas de façon égalitaire sur tout le territoire. Mais c'est vrai que 58% des 1 400 clients qui ont reçu une contravention en 2025 étaient à Paris. Oui, forte concentration, inégalité. Bon, après, faut dire aussi la réalité, c'est que les clients en ligne qui rentrent en contact en ligne avec, ouais, avec les personnes en situation de prostitution sont encore peu contraventionnalisés par rapport aux personnes dans l'espace public. Ouais. Mais les forces de sécurité intérieure développent des systèmes pour mieux les appréhender. Et c'était présenté hier au comité de suivi de la stratégie interministérielle.
Merci beaucoup Delphine Jarraud d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de l'Amicale du Nid. Et justement, peut-être qu'on vous réinvitera pour parler aussi des autres lois qui pourraient arriver, notamment sur des sujets comme OnlyFans, Mime, etc. Enfin, les nouvelles formes, quelque part, de prostitution. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et on vous dit à bientôt sur les lignes droites.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous ce matin, merci d'avoir suivi Ligne Droite, merci d'avoir été ici chez nous sur la matinale de Radio Courtoisie. Mais maintenant, que nous avons tout en donné, nous avons à vous demander.
Voilà, vous êtes ici chez vous, chers auditeurs, chez nous et chez vous. Nous, c'est une grande famille, la famille de Radio Courtoisie qui a besoin de tous ses membres pour financer, pour lui permettre de garder son son indépendance, sa liberté de ton et de refuser les ressources publicitaires, il n'y a qu'une solution, c'est que ceux qui aiment Radio Courtoisie participent. Vous êtes déjà des milliers, dizaines de milliers à nous aider, mais nous avons besoin de faire grossir les rangs. Alors rendez-vous sur soutenir.rc.fr pour faire un don dès maintenant en fonction de vos besoins. soutenir.rc.fr et c'est défiscalisable si vous êtes imposable sur le revenu. Merci d'avance.
Merci, et puis alors quel sera le programme du jour, Franck ?
Dans quelques instants, les mardis de la mémoire d'Anne Colin pour un itinéraire spirituel et historique en Terre Sainte, seconde partie, midi le libre journal de la musique et de la culture de Didier Rochard, 16h, planche Calzébul de Richard Decesse pour Massacre et Argent, les valeurs américaines, 16h30 le RC Mag de Jean-Étienne Poza, déclin de la France et de l'Empire Atlantiste, 17h populaire, vous avez dit populaire, ce consacré à Sacha Guitry, 17h30 Restons courtois, présenté aujourd'hui par Richard Decesse, 19h30 le libre journal de la France libre d'Henri Foucrot, 21h30 le libre journal de l'Occident de Guillaume Antoine et François-Xavier Jiquel, et puis à 23h dans la soirée musicale de Stéphane, les concertos de Vivaldi.
Merci beaucoup Franck, et puis pour demain nous recevrons Christophe Eoche Duval, Manon Bouquin et Philippe Bilger, voilà pour une nouvelle matinale qui sera, je l'espère, tout aussi passionnante qu'aujourd'hui. Et puis je vous dis donc à demain.
À demain Alexandre.